Vous écoutez
RMC.
Messieurs, dames, Kevin Diaz a vu le Sénégal et il veut en parler. Ça tombe bien, nous avons un jingle Kevin Diaz.
Mais quelle est la différence entre un poussin et un canari?
Ben, le canari, c'est celui du canard, non?
Je connaissais pas. Alors, je connaissais pas, mais alors là, je crois que tu peux partir.
Je vais sortir.
Et oui, le canari n'est pas l'enfant du canard.
Ah, oh, waouh.
N'est pas le petit du canard. C'est je sais que c'est dur à entendre.
En fait, je garde mon jingle. Hein. Mais... très bien, mon jingle de banners, là.
Je vous ferai une devinette la prochaine fois.
Bon, les Sénégalais, tu veux en parler parce que ce que tu as vu hier, t'as pas plu.
Ouais, j'étais donc j'ai vu les deux matchs hein, du Sénégal au stade. Forcément, on voit mieux les choses. Il y a pas uniquement l'angle de la caméra. Tu peux voir les remplacements, tu peux voir aussi les petites consignes, le leadership des uns et des autres. Et oui, il y a du leadership chez les deux cadres dont je vais parler au Sénégal. Mais même si on a tous adoré Kalidou Koulibaly et Sadio Mané, je pense que Pape Thiaw, il est un petit peu à l'image de Martinez et Cristiano Ronaldo, en train de s'enfermer dans quelque chose où c'est des joueurs qui sont plus là pour le respect qu'on doit avoir pour leur carrière, pour le statut, voire même peut-être pour leur état d'esprit et leur leadership sur, mais surtout en dehors du terrain, que pour leur prestation pure. Parce que hier, Koulibaly, bah, il coûte quand même deux buts à son équipe. Sadio Mané, alors il essaye de faire les efforts, mais il n'arrive plus à faire vraiment une différence en un contre un. Il en a fait une, je crois, en deuxième mi-temps, au moment où il laisse passer le ballon. Bien sûr que ça reste toujours un joueur talentueux, mais je pense que pour avoir vu les deux matchs au stade, je ne sais pas ce qu'en pensent les Sénégalais, mais quand je vois l'entrée d'Illimane Ndiaye sur le premier match, quand je vois même un Ismaïl Assar ou en défense Sarr, donc l'ancien Strasbourgeois Gilbert, qui est maintenant à Chelsea, même s'il a un peu moins joué sur les six derniers mois, c'est quand même des joueurs qui ont du talent et il faut leur donner des minutes dans cette compétition parce que je pense que le Sénégal a besoin de fraîcheur. Il y a quand même un groupe très étoffé et du coup, je crois qu'il est en train de... Je mettrais Idrissa Gueye un petit peu à moindre mesure, même si pour moi, sortir Pape Gueye hier, c'est un peu sévère quand même, je trouve. Mais voilà, je pense que le Sénégal doit avancer et si certains... doivent être remplacés ou doivent être mis sur le banc, peu importe ce qu'ils ont apporté, peu importe leur histoire dans le football sénégalais, je pense qu'il faut le faire à ma petite échelle.
Messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec Kevin? Flo d'abord.
Moi, je vais laisser parler Walid sur. Je sais qu'il a un os à ronger sur Koulibaly. On a déjà parlé, donc ce qu'a dit Kevin est juste. Mais je dirais que malheureusement, il y a d'autres choses dans cette sélection. Il y a d'autres problèmes. Il y a les problèmes déjà en coulisses, donc qui expliquent aussi beaucoup de choses.
Oui, peut-être.
Et il y a aussi d'autres joueurs qui finalement vont passer un petit peu à travers les gouttes parce que justement, il y a les cas dont tu as parlé, les fameux statuts qui sont durs à gérer. Mais moi, malheureusement, Edouard Mendy est blessé. Mais avant, je disais que même Mendy n'est pas eu à son prime et même quand il fait des bons matchs, il y a toujours l'erreur derrière et des fautes qu'il ne faisait pas auparavant. Donc c'est une perte de qualité et de compétence. Nicolas Jackson devant, ça pique les yeux aussi et c'est incapable de conclure depuis le début. Donc si tu veux, cette histoire de Koulibaly...
Ils n'ont pas vraiment d'alternative pour Jackson.
Non mais cette histoire de Koulibaly, moi je suis entièrement d'accord et c'est un vrai souci. Et c'est dans une sélection, ces pièges-là se referment forcément sur le sélectionneur. Mais il y a en plus les problèmes en coulisses et il y a en plus d'autres joueurs qui à mon avis sous-performent. Donc ça fait du Sénégal pour moi la grosse déception.
Bon, Badiang, c'est pas une alternative.
Ça fait une deuxième partition de grande qualité avec Lorient.
Ah ouais. Mais moi, Nicolas Jackson, par exemple, je dirais aussi pareil, totem d'immunité.
Contre la France, il a pas été mauvais, Nicolas.
Bah, moi, je trouve pas. Je trouve qu'il, quelque part,
il y a trop de lacunes, quand même.
Il y a beaucoup de lacunes hier. J'ai vu
aussi,
il a été lacunes. Mais dans ce cas-là, quand tu vois, on le disait hier pour des latéraux en France, comme Koundé ou Théo Hernandez, quand t'es dans des compètes comme ça, t'as que 8 matchs, il faut que tu changes, il faut que tu mettes, on a bien vu les changements à la mi-temps, dans la plupart des équipes. Bah, derrière, dans le deuxième match, tu récupères des nouveaux titulaire. Donc évidemment, hormis les cas de ces fameux gros statuts là dont tu parlais, je trouve qu'il y a beaucoup de points faibles dans cette équipe.
Non, mais ce qui est incompréhensible surtout, c'est que moi je parlerai de Kalidou Koulibaly dans un deuxième temps parce qu'on en parlera aussi avec Karine plus tard. Mais en fait, chez les leaders du Sénégal, c'est que hormis peut-être Gueye qui a fait un super match, enfin super premier mi-temps contre l'équipe de France, c'est que là on est dans une nouvelle réalité. C'est la réalité de la Coupe du Monde où ils sont rentrés de la pire des manières parce qu'ils jouent contre la Norvège et contre l'équipe de France et tout de suite ils ont été pris dans cette compétition par cette intensité. Et moi, hier, sincèrement, contre la Norvège, quand il y a eu match, parce que sur la fin de match, ils essayent de revenir tant bien que mal, mais sur la première heure de jeu, il n'y a pas photo. Sur la première mi-temps, ça doit faire 3-0 Norvège, et il y a rien à dire. Avec, je trouve, moi, techniquement, des gros problèmes, des grosses lacunes sur la rencontre, et des faillites individuelles. Sadio Mané, il a fait une grosse Coupe d'Afrique des Nations, donc c'est vrai que ça me paraît un petit peu bizarre de le voir à ce niveau-là, même si
c'est pas le même niveau aussi.
Exactement. C'est pas le même niveau, mais parce que la Norvège et l'équipe de France ont montré que ils avaient ce niveau-là pour leur faire très très mal. Et après, c'est surtout tout ce qui va se passer derrière, parce que Koulibaly, quand on regarde bien ce qui s'est passé sur la CAN, déjà, plus on avançait dans la compétition, plus c'était compliqué. Et que Mamadou Sarr l'avait remplacé contre l'Égypte notamment, et derrière, sur la finale contre le Maroc, où il avait été monstrueux. Et c'est vrai que ça va être intéressant pour Papcio, parce que là, il va falloir prendre des grosses décisions. Et ce qui est paradoxal, en fait, dans cette Coupe du Monde, Gilbert, c'est que le Ghana, qui n'a pas fait la Coupe d'Afrique des Nations, qui est en totale perdition dans son projet de football au pays.
Il a changé de
sélectionneur qui, on connaissait pas le 11 avant le début de la compète, va faire 16e de finale en faisant 4 points sur les deux premiers matchs. Et de l'autre côté, on a le Sénégal qui était sur une pente ascendante, qui a fait des gros résultats, qui là se retrouve dans une situation très très compliquée. Et c'est vrai qu'il y a des choix étonnants, parce que donc Mamadou Sarr ne démarre pas, on a Illiman Ndiaye
qui a fait
7 minutes sur Ibrahim Mbaye, qui a le feu à chaque fois qu'il rentre, qui ne démarre pas. C'est vrai que moi, je trouve qu'il y a des choix un peu étonnants. Plus si on regarde ça, ce qui se passe de la sélection, les primes, pas les primes, le contrat, pas le contrat de Papcio, on fait fuiter un peu dans la presse, on est finalement content que ça se fasse entre le premier et le deuxième match. Je sais pas, il y a un mood très négatif autour du Sénégal. Et moi, là, je dis attention. Parce que si tu te qualifie pas, parce que là t'as quand même une chance, c'est que dans cette fameuse formule
ils sont mal barrés. Il faut battre l'Irak, et en plus parce que là ils ont un goal average
moins 3 ils sont
ils ont un goal average qui est pas bon, donc il faut largement battre l'Irak si tu veux te qualifier.
Il faudra une victoire confortable, même si moi je reste persuadé que dans cette formule là il y aura quand même beaucoup de troisièmes à 2 points, et ça
le but pour la Croatie, l'ouverture du score, 54e minute de Jose Budimir, entrée en jeu à la pause, qui vient reprendre un magnifique centre qui est venu du côté droit. Stanisic, je crois, qui a centré, qui a débordé, en tout cas il avait réussi à faire la différence grâce à son appel, le centre au deuxième poteau. Mosquera qui se rate dans sa sortie, le gardien panaméen, et c'est Budimir, le joueur d'Osasuna, 17 buts cette saison, 19 buts même cette saison, qui a maintenu le club espagnol et qui l'a fait beaucoup de bien à la Croatie. 54e minute de jeu, 1-0 pour les Croates face au Panama.
Très bien, à tout à l'heure. C'est Walid qui avait la parole.
Oui, il va falloir gagner de manière confortable contre l'Irak. Et moi, je trouve que si le Sénégal ne remplit pas cette tâche-là, ça envoie quand même un mauvais signal pour le continent africain. Hein, parce qu'on le rappelle, mais il y a 2 mois et demi, ils gagnent au Maroc une Coupe d'Afrique des Nations sportivement. Peut-être pas dans les bureaux, sûrement pas dans les bureaux, mais sportivement, c'est une équipe qui gagne la Coupe d'Afrique des Nations. Et venir à la Coupe du Monde 3 mois après et ne pas réussir à gagner contre l'Irak, ce serait terrible. Déjà que contre la Norvège, moi je trouve que ça fait c'est une performance qui fait tâche. Là, sincèrement, ce serait impardonnable pour le Sénégalais. Ce serait très très décevant. Et ça va être intéressant de voir ce que Papcio va faire, parce qu'il a sorti Koulibaly sur les 20 dernières minutes, que Edouard Mendy, qui fait partie aussi de ses leaders, moi je trouve, a fait des très beaux arrêts, mais il s'est aussi troué sur les 2 premiers matchs sur certaines situations, et il est blessé. Et quand je vois l'entrée de Morijo, je suis très très inquiet. Réaction obligatoire du Sénégal, et avec un peu plus de jeunesse, je pense, et avec un peu moins de statut qui doivent prédominer sur le terrain.
C'est là qu'on va voir si Papcio est un bon sélectionneur ou pas, un bon technicien ou pas, parce que c'est là qu'il faut faire ses choix maintenant. S'il te remet la même équipe avec un Sadio Mané dans ce 4-3-3 là aussi, qui à mon avis peut fonctionner parfois sur certaines configurations, mais pour moi tu dois mettre Illiman Ndiaye tous les jours dans cette équipe. C'est incompréhensible qu'il ait joué que 7 minutes comme Walid vient de le dire. Et pour moi, Thio, c'est maintenant vraiment qu'il va montrer de quoi il a été fait, parce que pour l'instant ça a plutôt bien marché pour lui jusqu'à maintenant. La première période contre les Bleus, elle est plutôt bonne. La deuxième période, ou en tout cas la fin de match contre la Norvège, elle est plutôt bonne aussi, parce qu'ils ont mis un peu de pression, etc. C'est maintenant que ça va compter le plus. Et sincèrement, je serais très déçu si s'ils faisaient les mauvais choix.
Mais moi, je mets quand même une différence entre Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, parce qu'en fait, la gestion de Kalidou Koulibaly, elle est très très bizarre, parce qu'il faut rappeler quand même qu'avant la compétition, Malang Sarr a choisi le Sénégal. Malang Sarr qui a fait une énorme saison avec Lens, qui est peut-être avec Niakate le défenseur le plus en forme sénégalais. Sauf que à l'époque, au micro de Mohamed Bouafsi, il y a 10 ans, hein, il avait expliqué qu'il n'irait pas pour le Sénégal, qu'il n'opterait pas pour le Sénégal. Et donc il y a eu entre guillemets un choix par défaut pour certains. En tout cas, c'est comme ça que certains l'ont exprimé au pays. Et donc par rapport au tollé sur les réseaux sociaux et même dans l'opinion générale, il l'a pas pris dans la liste.
Ouais.
Il l'a pas pris dans la liste, alors que sportivement, Malang Sarr aurait eu sa place, même titulaire, je pense, dans cette équipe. Donc déjà, ça avait créé un peu des tensions, même au sein de l'équipe, sur l'arrivée ou pas de Malang Sarr. Koulibaly, qui a une saison compliquée en Arabie Saoudite, qui a eu pas mal de pépins physiques, et donc par rapport à son statut, par rapport à la légende que c'est. Faut rappeler, hein, mais
il a joué 9 minutes avant dans les matchs de préparation, hein, avant d'arriver ici.
Faut rappeler que Koulibaly, c'est lui qui met le but, qui qualifie le Sénégal pour le 8e de finale en 2022 contre l'Équateur. Ouais. C'est un mec, c'est un monstre. Ça a été un monstre au Napoli dans toute sa carrière. Et donc il joue par rapport à ça. Et c'est là où en fait c'est compliqué quand t'es un sélectionneur. C'est qu'est-ce que tu fais par rapport à ce que ça peut générer dans le groupe, par rapport à son leadership. Et là, clairement, sur les deux matchs, ouais, Koulibaly sur la deuxième mi-temps contre l'équipe de France, c'est lui qui crève l'équipe. Et là, hier, il est sur les buts. Il est sur tous les buts.
Et c'est difficile à gérer, hein, ces fins de carrière internationale. Là, je comprends très bien. Mais bon, faut faire les choix.
Il y a un truc quand même qu'il faut dire sur effectivement à la fois la gestion, mais et le problème des joueurs eux-mêmes. Parce que pour avoir vécu ça plusieurs fois en équipe de France avec des générations vieillissantes, c'est vrai que ce côté, les joueurs en gros choisissent. Tu sais, quand on dit toujours c'est aux joueurs de dire si. Ah non, par moment c'est pas au joueur de dire si. Et là, ce qu'il a fait Koulibaly, c'est qu'il a dit dans l'after, hein, c'était ça
oui,
quand vous étiez
à Dakar,
il avait dit voilà, moi je suis prêt et tout machin. Alors que de fait, lui-même ne peut pas dire à 100% que c'était la vérité. Il voulait jouer, il voulait y aller, il pensait pouvoir le faire peut-être, mais il devait bien sentir qu'il y avait un problème. À un moment donné, il faut bien sûr que c'est le rôle du sélectionneur, surtout maintenant que la preuve est sous ses yeux. Mais il y a aussi les joueurs eux-mêmes qui n'ont jamais cette logique-là. Je me souviens, je vais vous donner un exemple. Lizarazu, j'ai suivi toute sa carrière, à la fois en club et en équipe de France. Je peux te dire que c'était Evra qui était le concurrent. Il a jamais voulu lâcher. Et Lizarazu, derrière, il est capable de te faire maintenant un édito très, très intelligent pour dire un peu que, bah, c'est compliqué les fins de carrière pour les joueurs. Mais à l'époque, il ne voulait pas lâcher sa place. Il n'avait plus le niveau.
Koulibaly, c'est une Desailly 2004. C'est Thuram 2008.
C'est la compétition de trop.
Ta comparaison, j'ajoute autre chose, c'est que le Sénégal, ils sont en train de faire surtout une France 2002. C'est-à-dire qu'entre les problèmes internes, ouais, fédé, ouais, ouais, les joueurs blessés, les faillites sur le terrain, j'explique pas que contre l'Irak.
Ah oui, moi,
tu vois,
ça va pas être simple.
Moi, je ne le vois pas se balader.
Mais ce serait très, très grave.
Par rapport à ce que tu dis du goal average, là, faut pas qu'ils s'imaginent en médecin qu'à l'Irak.
Oui, et puis en plus ça peut mettre, moi je vais faire une comparaison tennistique, mais c'est un peu comme dans le Masters de fin de saison là où tu dois gagner que en 2-7 pour passer. Ça peut aussi te manger le crâne. De se dire je dois gagner 3-0 contre l'Irak avec une certaine frustration sur la première mi-temps si ça fonctionne pas ou si ça marque pas tout de suite. Donc c'est vrai que ça va être une gestion très très spéciale pour le Sénégal, mais même globalement, tu sais, j'avais écouté attentivement l'émission à Dakar, Gilbert, j'avais trouvé qu'il y avait une communication très agressive quand même.
Oui, ils étaient très très sûrs de
très, très sûr.
Et même la veille du match ici aux États-Unis.
Moi j'avais vu notamment, je crois, Pape Thiou, ou si c'était un joueur qui avait dit plan anti-Haaland. Non, il n'y aura pas de plan anti-Haaland. Au micro de l'after, Koulibaly qui dit on est l'une des meilleures équipes au monde, je crois. Il dit il y a une déclaration forte comme ça en disant. Et là, je trouve que tu reviens quand même sur terre sur ces deux matchs-là parce que pour l'Afrique, c'était quand même une gâchette très importante, même si moi je mettais la Côte d'Ivoire un petit peu devant par rapport à la dynamique, mais normalement en termes de statut, par rapport à ce qu'ils ont réalisé, la densité d'équipe, la jeunesse mélangée à l'expérience, le Sénégal pour l'instant c'est une vraie faillite. Et peut-être que les têtes sénégalaises ont un peu trop grossi
dans les jours qui ont précédé la Coupe du Monde. Je dirais que la dynamique, comme tu dis, elle s'est inversée, Côte d'Ivoire et Sénégal, pour prendre ces deux exemples. Et c'est vrai que moi j'ai senti à la fois qu'il y avait beaucoup dans les discours et beaucoup moins sur le terrain côté sénégalais. Et à l'inverse, quand j'ai vu le match de prépa de la Côte d'Ivoire contre la France,
et avec beaucoup moins d'esbrouf dans les déclats, mais beaucoup plus de choses sur le terrain. Je pense qu'effectivement, il y a une façon, une gestion d'équipe qui peut meilleure.
Les États-Unis aussi, où ils se sont fait battre en préparation. Ouais. Et moi, je pense que les langues vont se délier. Si ça se passe mal, on va en savoir beaucoup plus, je pense, sur ce qui se passe à l'intérieur du groupe et par rapport à la fédération depuis le début de la compétition. Parce que, de toute façon, voilà, on connaît un petit peu, on le dit souvent, mais tu t'entraînes aussi comme t'es dirigé. Et à partir du moment où ça se passe mal dans les instances, ça peut aussi avoir un impact sur le terrain.
Dans les meilleurs troisièmes pour l'instant, Gilbert, les différences de but, c'est du 0, du moins 1, du moins 2, dans les 8 meilleurs troisièmes. Donc, à moins 3, t'es pas complètement éliminé. Mais il faut pas non plus que, si tu gagnes 1-0, ça peut être compliqué. Si tu commences à gagner 2-0 contre l'Irak, tu pourrais être en position plutôt favorable.
Il y a deux discours.
Il y a une 4-0, t'es quasi sûr d'en être.
Ouais, ouais. 4-0 contre l'Irak, moi attention.
Pas facile. Pas facile. Moi,
mais elle va jouer cette équipe irakienne. Ouais. Aussi, elle peut se qualifier. Ouais. Hein.
Elle va jouer, t'as raison. Donc c'est un avantage. Mais tu vois, j'ai entendu deux communications comme ça qui me paraissent toujours un peu dangereuses. C'est Rudy Garcia sur la Belgique contre la Nouvelle-Zélande. En mode, il avait déjà comptabilisé les 3 points.
Oui.
Ok, on verra.
Mais ça, c'est Rudy Garcia aussi.
Et pareil pour le Sénégal. Attention, on verra. Moi, je vois pas une victoire large du Sénégal, mais bon. Souhaite, hein, mais
ce qui est dingue, c'est que s'ils gagnent contre l'Irak et qu'ils passent en 16e de finale, ils auront peut-être un adversaire moins compliqué que la Norvège. C'est le charme ou les dérives de cette compétition. C'est le cas aussi pour l'Autriche et l'Algérie. Si l'Algérie termine 3e, l'Autriche joue l'Espagne en étant 2e, et l'Algérie peut avoir les USA, le Canada ou le Mexique. Donc c'est ça qui est dingue, c'est que le Sénégal, s'ils s'en sortent, il y a aussi la possibilité d'avoir, je vais pas dire un 16e abordable, mais un 16e où ils vont pas rencontrer les 4 favoris à la gagne dans 2 semaines.